Chapitre 7. Cornelio remonta dans son laboratoire où il s'enferma, en proie à une inquiétude qui approchait du remords, car il ne pouvait plus se dissimuler que par ses opérations magiques, il avait travaillé à la perte de l'enfant qu'il chérissait. Il avait trop de foi dans sa science pour douter de la puissance du charme qu'il avait mis entre les mains du comte Ariani. N'était-il pourtant aucun moyen pour combattre l'effet de ce charme par une influence contraire? Il n'en connaissait pas, mais il ne désespérait pas d'en trouver. Il se mit à feuilleter tous les vieux parchemins de sa bibliothèque, tous les grimoires de démonologie, dans l'espoir d'y rencontrer quelque instruction qu'il pût adapter aux difficultés de sa situation présente. Mais sa recherche fut vaine. Les maîtres de la science n'avaient pas prévu le cas qui se présentait. Pareil à l'ouvrier de la fable qui se perdait dans le labyrinthe, ouvrage de ses mains, Cornelio s'était pris dans son propre piège et luttait en vain contre l'enceinte sans issue où il s'était enfermé. Il redescendit, sans avoir rien pu découvrir, de l'air d'un homme obligé de courber la tête sous le joug d'un ennemi trop puissant. Il ouvrit la porte avec précaution pour voir si sa fille dormait, mais elle était éveillée. « Je n'ai pas pu dormir, mon père, lui dit-elle. Cependant, le repos m'a fait du bien, et si vous voulez vous asseoir près de mon lit, je vous raconterai la suite de mon histoire. » « Oui, continua la jeune femme, il m'épousa et puisse le jour où ce lien fut formé, être retranché à jamais de ma vie. De ce moment, je sentis que je n'étais plus à moi, qu'une volonté plus forte dominait la mienne, que j'avais affaire à une nature énergique et indomptable qui finirait par me briser, qu'enfin je n'étais pas de force à marcher d'un pas égal avec Octavio sur la route des passions humaines. Son amour même empruntait pour se manifester des formes qui m'enfrayaient. Un soir, après avoir chanté dans le Don Juan de Mozart, avec plus de succès encore que de coutume, je montai dans sa voiture pour regagner avec lui la maison que j'habitais dans Léopoldstadt. « Tu as été sublime !» me dit-il en me serrant dans ses bras avec une telle violence que j'en perdis la respiration pendant plusieurs minutes. Puis, comme frappé d'une pensée soudaine, il me repoussa brusquement. « Les applaudissements de ces rustres, ajouta-t-il d'une voix singulière, ont dû te satisfaire. » Et il garda le silence en me considérant avec des yeux qui jetaient un feu sombre dans l'obscurité. Une autre fois, il trouva chez moi, avec plusieurs autres personnes, ce même Saphir, l'auteur à la mode, qui était en train de faire une dissertation en style de feuilleton sur les yeux bleus et sur les yeux noirs. Octavio s'assit pour écouter comme les autres. « Les yeux noirs veulent être aimés, disait Saphir. Les yeux bleus veulent aimer. Les premiers représentent l'aristocratie, les seconds le gouvernement constitutionnel. Les yeux noirs lancent des éclairs, les yeux bleus laissent pleuvoir de doux rayons. Quand je vois un œil noir, je me figure un inquisiteur encapuchonné qui conduit à l'autodafé les pauvres âmes, tandis qu'un œil bleu est une sœur compatissante qui rafraîchit nos sens et nous console. Ève devait avoir les yeux bleus. Si elle eut les yeux noirs, Adam ne serait-il pas laissé tenter et nous serions encore en paradis. Mais qu'est-ce que ce serait qu'un paradis sans yeux bleus? Donnez-moi le ciel sans yeux bleus et l'enfer avec des yeux bleus. Par le ciel, je préfère l'enfer. Un œil noir est aussi une belle chose. Plus d'un œil noir m'a donné des barres du diable bleu, et ce serait une noire inquiétude que de ne pas reconnaître que les yeux noirs sont aussi des yeux célestes. Mais que voulez-vous? J'ai les yeux noirs. Les yeux noirs ne sont pas tendres. Or qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la volupté? Qu'est-ce que le bonheur sans tendresse? La tendresse est le sel de la mer d'amour, etc., etc. » Il continua longtemps encore, Et quand il eut fini, un murmure approbateur lui montra que la société savait apprécier le mérite de ses tours de style. Un de ses amis lui conseilla de se rappeler cette tirade pour l'insérer dans son prochain article. « Justement, » dit Saphir en s'adressant à moi, « Madame a des yeux bleus. Quelque autre cantatrice aura bien les yeux noirs. Oh, ce sera un sujet de parallèle. » Octavio se leva en ce moment et, tournant le dos à la cheminée, se mit à dire avec une froideur glaciale « Autrefois, il y avait dans les journaux une partie instructive. C'était le feuilleton où nous trouvions, sur les sujets artistiques et littéraires, des jugements qu'on pouvait prendre au sérieux, des remarques qui pouvaient se traduire en bonne philosophie. Celui qui les rédigeait ne se croyait pas quitte de sa tâche quand il avait fait étinceler aux yeux du public des colchetti de mauvaise loi, mais il se croyait obligé de donner une conclusion à ses paroles, et quand il traitait une question, de la discuter avec science et avec conscience. Oh, aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Le journaliste semble se considérer comme un baladin qui n'a rien à faire avec la pensée de ses lecteurs, mais qui doit seulement les divertir. Aussi apprend-il par cœur une petite routine de gambade, de culbute, de saut périlleux, et il croit que tout est dit quand il a passé sa tête entre ses jambes. La philosophie, mais qu'en a-t-il besoin pour rire de tout? L'érudition, ce serait du plomb dans ses poches. Lire leurs énormes articles pour y trouver d'imperceptibles doses de sens commun dont ils ont l'art de se contenter, mais ce serait vider un puits pour y chercher une épingle. Hélas, ces messieurs vous ont montré l'impuissance de ce don qu'on appelle l'esprit. Ils en ont eu en abondance de l'esprit. Ils en ont eu plus que Lucien, plus que l'Arioste et plus que Voltaire. Et avec tout cela, qu'ont-ils produit si ce n'est le plus grand déluge d'esprit à propos de rien qu'on puisse voir? Quant à moi, je trouve que l'esprit nous déborde et nous étouffe. Il y en a de 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. Combien de temps, hélas, attendrons-nous encore la colombe qui nous rapportera dans son bec une branche de verdure native? Hé, dit Cornelio, littérairement parlant, c'est pas mal pensé, car il faut avouer qu'il y a bien eu des vergourdages dans la presse périodique. Cela peut être, reprit la cantatrice, mais tenir ce langage en face à une puissance comme Saphir, c'était plus qu'une hardiesse, c'était un coup d'État. Je compris aussitôt que je n'avais pas 8 jours à tenir en scène si je ne parvenais à réparer cette imprudence inqualifiable. Vous blâmerez peut-être, mon père, la démarche que je vais vous avouer, mais considérez la position dans laquelle je me trouvais. Je lisais de plus en plus chaque jour dans le caractère d'Octavio une jalousie sombre qui s'était déjà trahie dans plusieurs circonstances et dont je ne doutais plus quand il me défendit le lendemain de la scène que je viens de vous raconter de continuer à recevoir Saphir. Je savais d'un autre côté qu'indisposé contre moi ce critique célèbre qui tenait dans ses mains les ressorts de toutes les intrigues, c'était m'exposer à être sifflé au théâtre, calomnié dans les journaux, à me voir fermer peut-être une carrière que j'aimais avec passion. Je soupçonnais même vaguement que le but d'Octavio était de me forcer à quitter le théâtre. Cette crainte, plus que tout le reste, me décida à écrire à Saphir. Hélas, il n'arrive que trop souvent que nos précautions tournent contre nous. Présomptueux comme un journaliste et nourri dans la société viennoise, dont les mœurs ne sont pas propres à inspirer le respect pour les femmes, Saphir se crut autorisé à m'écrire sur le ton de la galanterie. Oh, je prends le ciel à témoin que malgré l'intérêt que j'avais à le ménager, je ne lui donnais aucun encouragement. Et l'avenir, cependant, s'obscurcissait de plus en plus. Mon mari portait habituellement une bague singulière qui avait attiré depuis longtemps mon attention. C'était un anneau d'une forme antique, assez massive, au milieu duquel était enchâssé un diamant qui jetait un éclat tel que je n'en ai jamais vu d'aussi brillant. Souvent, à l'époque de notre mariage, au milieu des longues rêveries d'amour qui avaient alors pour nous tant de charme, les éclairs que jetait cette pierre m'avaient comme réveillé en sursaut, avec un sentiment de peine très désagréable. Un jour, je priais même Octavio de ne plus porter cette bague dont la vue me faisait tressaillir. Il sourit de ma demande comme d'un enfantillage. Cette bague, répondit-il, est depuis longtemps dans ma famille. L'eau de ce diamant ne manque jamais de se troubler toutes les fois qu'une trahison ou quelque malheur menace celui qui le possède. J'avais souvent entendu parler de bagues pareilles, mais je n'y croyais pas. Je n'y crus pas encore, malgré la réponse d'Octavio, quoiqu'il me la fît d'un air sérieux. Cependant, peu après que j'eus écrit à Saphir, je remarquai un changement profond dans les manières d'Octavio. Il était encore plus froid, plus pensif que de coutume. Il jetait sur moi des regards muets qui me faisaient trembler jusqu'au fond de l'âme. Et en même temps, il me semblait que son diamant, qu'il avait toujours à la main, s'obscurcissait peu à peu et perdait de la vivacité de son éclat. Près d'un mois se passa ainsi. Saphir m'écrivit plusieurs fois, mais je crus prudent de laisser ses lettres sans réponse, d'autant plus que le ton passionné de son style finissait par me choquer. Octavio se montrait de plus en plus sombre, et enfin son brillant devint tellement pâle que je ne pus pas croire plus longtemps que ce fut une illusion. J'aurais beaucoup désiré de voir de près pour m'assurer si cet obscurcissement étranger ne venait pas de quelque malpropreté. Mais Octavio l'avait sans cesse au doigt, où j'osais à peine le regarder. Le comte Ariani couchait toujours avec moi, bien que depuis longtemps il eût cessé presque de m'adresser la parole. Avant de se mettre au lit, il avait coutume d'ôter tous ses anneaux de ses doigts et de les poser sur la table de nuit, à côté d'une petite veilleuse qui restait allumée. Une nuit, où je m'en souviens, je le croyais endormi profondément. La veilleuse me jetait sous l'alcôve qu'une clarté incertaine et vacillante. Je ne pus résister à la tentation de prendre la bague mystérieuse pour l'examiner. Le diamant me parut devenu comme opaque. Je l'approchai de mon haleine et je le frottai doucement, mais loin de s'éclaircir, il devint plus mat encore. Effrayé, j'allais le reposer à sa place, qu'en me retournant pour voir si Octavio dormait toujours, j'aperçus ses yeux ouverts qui me considéraient fixement. Il me saisit avec violence par le bras. La lueur de la veilleuse éclairait son large front pâle, couverte de gouttes de sueur. « Malheureuse, me dit-il d'une voix concentrée, tu essaies en vain de faire taire cette pierre qui t'accuse. Je sais tout. » Et en disant ces mots, il me secouait avec violence. Le regard atroce qu'il me jetait, le grincement de dents dont il accompagnait ses paroles, me persuadèrent qu'il voulait m'étrangler comme Othello. « Grâce, m'écriai-je, grâce, ne me tuez pas. » « Avoue ta faute, reprit-il en approchant de mes yeux sa bague qu'il avait saisie. Confesse en présence de ce témoin que tu m'as trompé. » Non, Octavio, non, répondis-je. Si quelqu'un vous a trompé, ce sont ceux qui m'ont accusé auprès de vous. Je crains que vous n'ayez vu des lettres que, par prudence, je ne vous aurais pas montrées, mais ces lettres ne sont pas de moi. Pensez-y bien. Elles sont restées sans réponse. Ne me regardez pas ainsi, Octavio. Je jure que je suis innocente. Si belle et si fausse, murmura le comte en attachant sur moi son regard brûlant que je sentais entrer jusqu'au fond de mon cœur. « Mais je jure que je suis innocente, continuai-je. Je n'ai pas sitôt oublié ce que vous avez fait pour moi. Le ciel m'est témoin que je vous aime toujours. » « Tu m'aimes toujours, » reprit Octavio. « Eh bien, je vais te dire le moyen de me le prouver. Le bonheur n'est nulle part ici-bas. J'ai dans cette bague un poison subtil qui tue promptement et sans douleur. Partageons-le, délivrons-nous de l'existence, mourons ensemble, cette nuit même. » Cette proposition étrange me surprit. « Comme vous pouvez le croire, » poursuivit la Zoccolina. « J'avais peur, en la repoussant tout d'abord, de renouveler la colère du comte, de le pousser à quelque extrémité violente contre moi. Aussi, en lui faisant remarquer combien était grave un pareil acte, je lui demandais quelques jours pour y réfléchir avant de prendre un parti. » Mon parti, je l'avouerai, était tout pris d'avance. Je n'avais nulle envie de mourir. Mais je sentais aussi, après les scènes qui avaient eu lieu entre nous, que je ne pouvais plus rester auprès d'Octavio. Ses manières étranges, ses bagues constellées, ses poisons me faisaient croire à une influence surnaturelle dont je me persuadais être environné. Je pensais que ma vie n'était pas en sûreté tant que je vivrais sous le même toit que lui. Enfin, que vous dirais-je ? Je pris la résolution de quitter Vienne sans le prévenir, et je ne renaquis à la tranquillité et à la santé qu'en revoyant mon pays, en me retrouvant sous le beau ciel de l'Italie, où une chaise de poste me ramena en 3 jours. Il y a du pour et du contre dans l'histoire que tu viens de me raconter, reprit lentement le vieillard. Le caractère de ton mari, avec ses bizarreries, ses brusqueries passionnées, te rendait sans doute difficile de vivre longtemps en bonne harmonie avec lui. Mais toi aussi, ma pauvre Esther, tu n'as pas agi avec la prudence que ta position demandait. Ce qui est fait est fait, n'y pensons plus. Dis-moi seulement, as-tu appris à ton mari quelle était ta famille et quel était le lieu de ta naissance ? Non, mon père, je lui ai toujours laissé croire que j'étais d'une ancienne famille vénitienne, aujourd'hui malheureuse. Ah, dit Cornelio, en paraissant réfléchir un instant. Cependant, j'ai des raisons de croire qu'il t'a suivi à Padoue. Oh, je ne le sais que trop, répondit la jeune femme. Je l'ai reconnu hier sur le Palazzo della Vallée, quoiqu'il fût couvert d'un domino noir. C'est de ce moment que mes terreurs, dont j'étais délivré depuis mon séjour en Italie, m'ont reprise avec une nouvelle violence. Oui, reprit Cornelio. Tout cela est maintenant clair comme le jour. Plût à Dieu que je fusse aussi sûr de trouver le remède que je suis certain de connaître le mal. Il me semble que je suis déjà mieux, mon père, depuis que je vous ai révélé mon secret. L'âme humaine est ainsi faite, mon enfant, qu'elle se soulage en communiquant sa peine. Et c'est pourquoi la confession, le sacrement bienfaisant de la religion catholique, est d'une si grand secours, surtout aux âmes faibles, qui ne se sentent jamais plus légères et plus tranquilles qu'après avoir déposé au tribunal de la pénitence l'aveu de leur faute. Ben, voici la nuit qui est déjà avancée. Le repos du corps est le premier pas pour arriver au repos de l'esprit. Il importe que tu dormes, ma fille, comme semble t'y inviter cette lune blanche et silencieuse qui regarde dans ta chambre. Je le voudrais, ô mon père, mais je ne sais si mes yeux voudront se fermer. Bois ceci, lui dit-il en lui tendant un verre d'eau où il venait de délayer une pincée de poudre, qu'il avait prise dans sa boîte à compartiments. La malade but le verre d'eau qu'elle rendit ensuite à son père, puis elle se recoucha et s'arrangea comme pour dormir. « De votre main, rien ne m'effraie, mon bon père, » reprit-elle. « Si c'eût été Octavio qui m'eût présenté ce breuvage, j'aurais cru être empoisonné, ou plutôt, je ne l'aurais pas bu, surtout s'il m'avait jeté en même temps ce regard. Oh, oh, il me semble encore le voir. »« Ne pense pas cela, ma bonne, » dit le vieillard. « Je me suis souvent demandé, mon père, comment il pouvait se faire que des yeux puissent briller la nuit. Éloigne ces idées qui t'agitent, mon enfant. Et quel signe est-ce que d'avoir toujours les mains froides? Mais si tu parles toujours, tu ne t'endormiras jamais, dit Cornelio, en prenant un livre qui se trouvait par hasard à sa portée. Écoute plutôt ce que je vais te lire pour te distraire. Et il lut à haute voix ce qui suit. Pour ce qui est des moyens d'agir dont on peut se servir dans la guerre, la force et la terreur sont les choses qui surtout lui sont propres. Mais on demande s'il est aussi permis de se servir de tromperie. Horace dit qu'il faut faire tout le mal que l'on peut à son ennemi. Par la ruse ou la force ouverte, il faut conspirer à sa perte. Et Pindare dit de même, il n'en faut point faire à demi pour affaiblir son ennemi. Dans Virgile, cette sentence si connue, entre ennemis qui blâment ou la force ou la ruse, est confirmée par l'exemple de Riphoaeus en ces termes. Quoi, ne voyons-nous pas que Riphoaeus en use, ce grand homme de bien et ce juste Troyen? Nous lisons même que Solon, qui est si célèbre par sa sagesse, a imité cette maxime. Et Silius a dit, parlant des exploits de Fabius Maximus, « Dès ce temps, on a vu que le meilleur moyen était d'accompagner la valeur de l'adresse. » Dans Homère, nous voyons Ulysse, qui est le modèle d'un homme d'esprit, être rempli partout de ruses pour surprendre ses ennemis. Et c'est d'où Lucien tire cette maxime que ceux qui trompent leurs ennemis sont dignes de louange. Xénophon a dit pareillement qu'il n'y a rien de si utile dans la guerre que la ruse. Et Brasside dit dans Thucydide qu'il n'y a pas de plus belle louange que celle qu'on remporte pour le stratagème. Et Agésilla use dans Plutarque, ici Cornelio, jetant les yeux sur sa fille, vit qu'elle sommeillait doucement. C'est pourquoi il se leva et se retira sans bruit. Le livre qui avait opéré ce miracle était un Grotius, De Iure Pacis et Belli, du droit de la paix et de la guerre. Chapitre 8. Il serait aussi triste pour le lecteur que fatigant pour nous-mêmes de donner jour par jour l'histoire des progrès de la maladie morale dont la jeune actrice était atteinte. Comment peindre d'ailleurs, dans notre langue vulgaire, ces combats intérieurs de l'âme, ces tourments innommés, ces terreurs vagues qu'un observateur calme eût jugées purement imaginaires? Qu'il nous suffise de dire que l'œil vigilant de Cornelio, toujours ouvert sur sa fille, voyait avec effroi les symptômes de sa maladie prendre un caractère de plus en plus inquiétant. Le malheureux père ne restait pas oisif. Si le comte Ariani se fût trouvé encore à Padoue, il l'aurait assassiné pour lui reprendre le talisman fatal dont il lui avait fait présent. Mais il était parti, et Cornelio n'avait pu découvrir la direction qu'il avait prise. Tout ce qu'il put faire, ce fut d'écrire de différents côtés pour tâcher d'obtenir les renseignements qui lui manquaient. En attendant, il mettait en œuvre toutes les ressources de la médecine particulière dont il avait le secret, avec la douleur de voir ses essences les plus pénétrantes, ses poudres les plus héroïques échouer, contre le mal moral qui rongeait sa fille. Car ce mal était dans une région trop haute pour que les remèdes matériels puissent l'y saisir. Plus d'une fois, quand il voyait sa chère malade plus tranquille, il se déroba au milieu de la nuit pour aller tenter de nouvelles incantations près du puits solitaire de l'Annunciata. Mais le charme avait été si fatalement opéré que toutes les conjurations qu'il voulait faire en sens contraire ne pouvaient s'accomplir. Moins heureux que Don Quichotte, qui, essayant la cuirasse qu'il avait mise un mois à fabriquer, la brisa du premier coup, lui au contraire, il voyait avec rage son œuvre résister à tous ses efforts. Il frappait alors la terre du pied dans son désespoir. Sa doctrine, on l'a vu plus haut, lui apprenait que tout s'opérait dans la nature par la force des génies. Il croyait que sa fille était en proie à une foule de mauvais génies qui se détachaient sans cesse du talisman possédé par Octavio pour venir la torturer. Aussi employait-il toute sa science à leur interdire l'entrée de la tour. Tantôt, il faisait flotter au-dessus de la plateforme un pavillon sur lequel il avait tracé des caractères magiques. Tantôt, il brûlait des substances qui remplissaient le vieil édifice d'odeurs fétides. D'autres fois, il veillait la nuit au-dessus de la tour, et quand son regard, fatigué d'interroger les ténèbres, croyait voir la troupe malfaisante des esprits voler en rond autour de lui, en guettant l'occasion de s'introduire, il leur lançait de petites flèches empoisonnées qui les faisaient fuir en poussant des gémissements. Hélas, rien de tout cela ne soulageait la pauvre Esther, chez qui les désordres de l'intelligence devenaient plus effrayants à mesure que ses forces corporelles s'affaiblissaient. Elle ne tarda pas à donner des signes d'aliénation mentale. Après être restée plusieurs jours dans un état d'insensibilité muette, son père lui trouva un matin les yeux brillants d'un éclat fiévreux. Il lui demanda comment elle se portait. Il lui fit signe d'approcher et lui parla très bas. « Il est toujours ici, mon père, » dit-elle. « De qui parles-tu ? » demanda le vieillard. « Parlez plus bas. Il nous entend peut-être. Octavio est ici, vous dis-je. Je l'ai vu. »«
Et où l'as-tu vu ?»
continua son père, bien sûr que personne n'avait pu pénétrer dans la tour.
« Je l'ai vu ici même, à la place où vous êtes. En me réveillant, je l'ai aperçu tout à coup, là, droit à mon chevet. Il avait un habit de voyage et ses pistolets passés à la ceinture. Oh, Dieu, quel frisson me parcourut de la tête aux pieds. Je retins mon souffle pour ne pas faire de bruit. Et lui, croyant que je dormais, tira de son sein une petite fiole remplie d'un liquide rouge dont je le vis verser une goutte dans ce verre où vous m'aviez préparé une potion. Tes yeux ne t'ont-ils pas trompé, ma chère enfant? Tu sais que souvent nos sens sont dupes d'illusions singulières. Oh, je l'ai bien reconnu, j'ai cru que j'en mourrais de frayeur. Et quand il eut versé dans cette potion le poison que tu crois sans doute qu'il y a mis, qu'est-il devenu ?
Reprit Cornelio.
Et il a pris un de ses pistolets, il a regardé s'il était amorcé. La peur me liait la langue, mais je priais Dieu en moi-même, persuadé que ma dernière heure était venue, quand je l'ai vu se diriger lentement vers ma harpe. Là, il s'est assis, et après m'avoir jeté comme une menace des accords en ré dièse qui m'ont fait frissonner, il a disparu.
Cornelio se garda bien de la contredire, comprenant que l'altération de sa raison rendrait vain tous les efforts qu'il tenterait pour la détromper. Le jour suivant, la jeune actrice raconta à son père qu'elle avait reçu une nouvelle visite d'Octavio.
Il s'est arrêté longtemps à me considérer, dit-elle, et jugeant sans doute que le poison n'avait pas fait assez d'effet, il en a mis deux gouttes aujourd'hui. Puis il a examiné ses pistolets. Ensuite, il est allé s'asseoir devant la harpe, mais il y est resté plus longtemps qu'hier. Il m'a rappelé comment nous nous étions connus à Florence, et il m'a chargé de tant de malédictions. Il m'a peint ses tortures avec tant de vérité que j'en ai pleuré amèrement.
« Il t'a parlé ?» dit le vieillard.
« Je n'ai pas vu sa bouche s'ouvrir, mais je ne le comprenais que trop bien. »«
Comment cela ?» demanda Cornelio.
« Mais la musique n'est-elle pas le langage le plus intelligible pour l'âme ? Avec de simples accords, il m'a tout dit et j'ai tout compris. Oh, si vous l'aviez entendu, mon père. Il a commencé par de tendres accords en si bémol qu'il détachait lentement et avec régularité. C'était comme s'il m'eût dit d'une voix triste et douce « Te souviens-tu de nos promenades au bord de l'Arnaud, du frais gazon où nous nous assîmes ?» De la lune qui se levait à travers le feuillage, du corps lointain qui pleurait dans les bois. J'étais alors heureux et tranquille, tu me laissais te contempler, et c'était assez pour moi. Mais pourquoi le destin a-t-il voulu que mon ciel se couvrît de nuages? Et ici l'harmonie s'assombrissait. Un déluge de notes désordonnées marquait le vol du mauvais génie qui s'abattait sur son esprit. Enfin éclatèrent des accords criards en la, dans leurs renversements les plus capricieux. Jalousie, fauve couleuvre, criaient ces accents entrecoupés. Qu'as-tu fait du plus pur sang de mon cœur dont tu t'es gonflé? Pourquoi as-tu creusé en moi ta caverne ou rempli de reptiles tes enfants? Vous savez ce que j'ai souffert dans mes longues insomnies, sueur de sang qui avait coulé de mon front. Que les tempêtes m'enveloppent, que la nuit glace mes membres fatigués, que le néant, que le froid néant m'engloutisse, pourvu que s'éteigne ce feu brûlant qui détache mon cerveau.
Quoi, ma chère Esther, dit Cornelio. Est-il possible qu'il ait exprimé tant de choses avec de simples accords?
Mais tout cela est bien davantage. Qu'eussiez-vous dit si vous eussiez entendu la solennelle malédiction en ut dont il m'a accablé avec un tel ascendant que je suis resté sans mouvement, sans regard, que mon sang ne circulait plus et que j'aurais étouffé si ce chauffard terrible se fût prolongé plus longtemps?
Telles étaient les sensations bizarres, les idées incohérentes qui se succédaient dans son âme, sous l'empire d'une oppression morale dont nous laissons au lecteur le soin d'expliquer la cause. Les émotions violentes auxquelles elle était sans cesse en proie, avec son organisation nerveuse, usaient rapidement les ressorts de la vie qui, dans ce frêle tempérament, n'avait que peu de résistance à leur opposer. On savait dans la ville que la Zaccolina était malade, chez son père, mais personne ne croyait qu'elle le fût de manière à donner des inquiétudes. Un soir, quelques jeunes gens qu'il avait connus se réunirent pour lui donner une sérénade. Ils avaient des violons, des hautbois, des cors et des basses, instruments qui, par leur gravité suave, répondent merveilleusement aux instincts mélancoliques de l'homme. Pendant que tout se taisait dans la campagne, à l'heure où les étoiles commençaient à jeter leur éclat scintillant à travers l'azur des cieux, ils vinrent se placer au pied de la spécola. Bientôt, au milieu du silence solennel du soir, on entendit s'élever une pure harmonie, si vague, si peu terrestre qu'on l'eût cru apportée par la brise parfumée des nuits. Un adagio, lent et voluptueux, se déroulait, léger comme une guirlande de gaz, sur les basses attentives qui, d'un air de mystère,
lui prêtaient leur appui. Sur ce fond indécis, se détachèrent bientôt les voix argentines des hautbois, soupirant une plainte pastorale d'un dessin antique qui rappelait les idylles de Moscus. La Zoccolina était dans une douce extase. En écoutant ce chant simple et pur, elle croyait respirer l'odeur des arbres en fleurs. Elle croyait entendre les ruisseaux murmurer, les génisses mugir dans les prairies. Une crainte vague se glissait au milieu du plaisir qu'elle éprouvait toutes les fois que les violons jetaient dans l'accompagnement un trait plus vif. Il lui semblait alors que son rêve allait s'éloigner d'elle. Hélas, il ne se brisa que trop violemment. Cornelio, fort mécontent qu'on vînt troubler son repos et celui de sa fille, ouvrit brusquement une lucarne à laquelle il fit pleuvoir sur les musiciens un amas d'immondices qui s'entassaient depuis des années dans l'escalier de la tour. « Beau large, beau sire, leur dit-il, allez donner l'aubade aux filles galantes de la rue des Cordiers et laissez en paix les honnêtes gens et les malades. » La peste soit du vieux sorcier, s'écria l'un des concertants, en tirant un paquet de cheveux mouillés du pavillon de son corps où il venait de tomber. Mais enfonçons sa porte et lançons-le dans la Brenta, dit le hautbois pastoral qui soupirait si tendrement un instant auparavant. Le vieux coquin se fie à ses bonnes barres de feu, répondit un des violons qui avait les yeux pleins de cendres. « Mais la première fois qu'il traversera les rues de Padoue, nous le flamberons comme un sorcier qu'il est, devant l'église de Saint-Antoine. »« Canaille !» reprit Cornelio, dont on distinguait toujours la tête blanche à la lucarne. « Osez-vous bien faire un pareil vacarme à mes oreilles ?»« Ah, tu crains le vacarme !» s'écria l'un des compagnons. « Eh bien, mes amis, régalons-le d'un charivari pour l'aider à s'endormir !» Et aussitôt, ils commencèrent à faire entendre un bruit composé de toutes les combinaisons les plus anti-musicales. Les hautbois ricanaient d'un ton nasillard comme des écoliers qui récitent un pinsomme. La basse lançait des roulements d'archets à coups pressés avec l'agrément d'un tambour qui bat le pas de charge. Les violons minaudaient en pizzicato, tandis que le corps plaquait sur tout cela des fortissimo en notes aiguës. Bref, l'ensemble en était si infernal que le gardien de l'observatoire ferma sa lucarne et s'enfuit au plus vite en se bouchant les oreilles. Mais ce concert eut pour la malade des suites plus graves. L'horrible discordance des sons agit sur ses nerfs irrités par la maladie et les attaqua d'autant plus dangereusement qu'elle s'était d'abord abandonnée avec joie à l'impression musicale. Quand son père vint vers elle, il la trouva toute tremblante, dans une excitation nerveuse portée au plus haut degré. Son regard effaré trahissait un profond effroi. « Défendez-moi » criait-elle en paroles encroupoupées. « Dieu, mais s'ils entrent ici, je suis perdu. Je l'ai vu, il était avec eux. »« Mais de qui veux-tu parler ?» lui demanda Cornelio, à qui il serrait violemment la main. « les démons, je les ai vus. Leurs ailes grinçaient contre les vitres. Oh, j'aime encore mieux le poison. Il était avec eux, c'est lui qui les amenait. » « Ils sont partis !» lui dit le vieillard, qui se prêtait à ses idées pour la calmer. « Partis, oh non ! Ils sont toujours autour de moi. Ils guettent l'instant de mon sommeil et pour me saisir, mais je ne m'endormirai pas. » Quand cette crise fut terminée, la Zoccolina tomba dans un abattement qui ne laissa plus d'espérance au malheureux Cornelio. Elle prononça désormais peu de paroles et ne se plaignait pas. Une seule fois, croyant son père sorti, elle se plaignit de mourir si jeune, quand le destin semblait lui promettre encore tant de jours de bonheur. Quelquefois, elle tournait son œil mourant vers son père, en le priant de prendre du repos, et le vieillard, désespéré, sortait alors de la chambre pour se frapper la poitrine et verser en silence un torrent de larmes. Dernier chapitre 9. Cornelio monta un soir sur le sommet de sa tour pour respirer un instant. La nuit menaçait d'être orageuse. De gros nuages noirs étaient amoncelés à l'orient, où des éclairs commençaient à briller, et le vent d'est qui les apportait chassait déjà de lourdes vapeurs à travers le zénith. De temps en temps tombaient des gouttes de pluie dont le bruit léger troublait seul le silence répandu sur la nature, ce silence de recueillement, précurseur ordinaire des tempêtes. Le vieux magicien, immobile, les yeux fixés sur la ville qui s'étendait à ses pieds, semblait plongé dans une profonde méditation. « Comme te voilà triste et sombre, vieille Padoue, » pensait-il, et quelquefois ses lèvres exprimaient tout haut ses pensées. Ah, il est temps pour toi et pour moi de quitter un monde où notre rôle est fini. Qui dirait, à te voir si déserte, que toi aussi tu as eu ton règne sur la terre, que les écoliers de tous les pays d'Europe se pressaient à tes écoles, que les affiliés mystérieux de la science se tournaient vers toi comme le musulman vers la Mecque, que l'orgueilleuse Salamanque, malgré ses cryptes célèbres, s'abaissait devant tes docteurs. Pauvre cité qui te meurt, quel est l'enchanteur qui t'a enfermé dans un cercle fatal, qui t'a dépeuplé avec sa baguette, qui rend tes murs si moussus, qui a gravé tant de rides sur tes édifices. Oh, maudit soit l'art infernal qui ne t'a pas sauvé et qui ne m'a pas sauvé. Et moi aussi, j'ai dominé sur toi, comme tu as dominé sur le monde. Tous ces palais, tous ces toits, toutes ces chaumières n'ont point eu de secret pour moi. De ce poste élevé d'où je rejetais mon mépris, j'ai tenu dans mes mains les fils qui faisaient mouvoir ces automates à cœur vide. J'ai jeté la pomme de discorde dans leurs fêtes. Sous les lambris, sous le velours et la soie, comme dans les haillons de la misère, j'ai vu leur passion honteuse et j'y ai mis la fin. J'y ai mis la main, j'ai remué cette boue avec dégoût. Tous ont monté, à quelques heures de la nuit, l'escalier de cette tour solitaire, et se sont humiliés devant le vieillard, objet de leur sarcasme. Et qu'ai-je retiré de tout cela? Où m'a mené cette science sublime? Tu me jettes ta froide lumière entre deux nuages, antique Saturne. Est-ce pour me dire que, comme toi, j'ai dévoré mes enfants? Hélas, le siècle où nous sommes a de tristes présages. Le feu s'éteint sur l'autel, la voûte du temple en s'écroulant, ensevelira bientôt le dernier des prêtres sous ses ruines, au milieu des arcanes brisées. De lassitude me gagne, je suis vieux, bien vieux. Oh, je vois le sud aussi sombre que le septentrion, et les astres qui se lèvent à l'orient sont aussi tristes que ceux qui se couchent à l'occident. Adieu à vous tous, mes frères, qui êtes dispersés sur la surface du globe. J'irai bientôt vous visiter dans vos songes, car, oh oui, je sens que ma fin vient à grands pas. Cependant, l'orage s'approchait. Le vent mugissait autour de la Specola et la pluie commençait à tomber avec abondance. Des coups de tonnerre sourds et prolongés se faisaient entendre dans la direction de Venise. Tandis que le vieillard contemplait ce spectacle imposant, abîmé dans ses pensées lugubres,
un pigeon vint s'abattre à ses pieds comme effrayé par la tempête. Mais Cornelio ne s'y trompa point. Il lui prit la lettre qu'on lui avait attachée sous l'aile et, ouvrant précipitamment sa lanterne sourde posée à côté de lui, il lut les paroles que voici. « Fomalo, l'étoile bleuâtre, salut Algol, l'astre du zénith étincelant. Maître, j'ai appris par ton messager que tu avais reçu la visite du comte Arliani, à qui j'avais donné pour toi le passe convenu. Tu me demandes en même temps, pour un motif que je ne connais pas, de t'informer si j'ai revu le comte, si je sais où il est retiré et quel usage il fait d'un talisman que tu lui as remis. Voici la vérité sur ce sujet qui paraît t'intéresser vivement. J'ai su, il y a 3 jours, que le comte Arliani était revenu après une longue absence et qu'il habitait une maison de campagne qu'il a louée à quelques lieues d'ici. Ce jeune homme a toujours été d'un caractère sombre et dans les conversations que j'ai eues autrefois avec lui, j'ai cru deviner qu'il avait des chagrins secrets. Mais depuis son retour, son humeur paraissait, dit-on, plus triste et plus sauvage encore, ce que l'on attribuait au dérangement de sa fortune. Quoi qu'il en soit, quand je reçus ta lettre, je résolus d'aller le trouver moi-même afin d'obtenir des renseignements plus exacts. En m'y rendant, j'eus un mauvais pressentiment, car au milieu de la forêt, un corbeau me poursuivit longtemps de ses croassements lugubres en se penchant sur la cime desséchée des chênes. La maison du comte Arliani me sembla inhabitée quand j'y arrivai à la tombée du jour. Les contrevents étaient fermés, pas une lumière n'y brillait. Je frappai plusieurs fois sans obtenir de réponse. Enfin, un vieux serviteur vint m'ouvrir. Il avait les yeux rouges d'avoir pleuré. Cet homme me connaissait pour m'avoir vu chez son maître. « Ah, monsieur, me dit-il, vous venez dans un triste moment. » La mort a visité cette maison. Elle a pris le jeune homme et elle a laissé le vieillard. Est-ce de ton maître que tu parles ? Lui demandai-je. Hélas, oui. Le malheureux, reprit-il en pleurant, il a mis fin à ses jours. Il m'introduisit alors dans une chambre où brûlait tristement une chandelle bénite pour éloigner les esprits. J'aperçus le comte Arliani couché sur son lit, la tête ensanglantée. Un pistolet tombé à terre m'apprit le moyen qu'il avait employé pour se donner la mort. Les questions que je fis au vieillard ne m'apprirent que peu de choses, car il n'avait pas suivi son maître dans ses voyages et n'était rentré à son service que depuis son retour. J'examinai alors avec attention les objets qui se trouvaient dans l'appartement. Ne tardai pas à découvrir, sur un bureau où le comte paraissait avoir écrit récemment, un petit globe de cristal qui me parut d'abord vide, mais où je distinguai bientôt un insecte enfermé. « Gloire à toi, ô maître, j'y reconnus à l'instant même ton cachet. À toi la science et le génie, nul ne peut t'égaler pour la force de tes charmes. » Voilà quel était l'état du talisman au moment où je le découvris. L'ouverture était hermétiquement close, de manière à n'intercepter entièrement l'air extérieur. L'insecte, c'était une libellula minima, comme tu le sais, était couchée sur le dos dans un état de mort apparente. Cependant, en agitant le globe de cristal, je vis une de ses pattes se mouvoir, et je reconnus ainsi que la vie n'était pas encore éteinte. Que devais-je faire, ô mon maître? Ce globe était-il un filtre d'amour ou un miroir de fortune? Cet insecte expirant personnifiait-il un être aimé, un ennemi ou un projet inconnu? Je n'osais toucher à un talisman sur lequel je voyais empreint ton sceau redoutable. Je me contentais de le prendre et de l'emporter pour le tenir à ta disposition. Aujourd'hui, la petite libellule paraît touchée à ses derniers moments. En l'examinant à la loupe, je n'aperçois plus dans ses pattes qu'un frémissement imperceptible, inappréciable à l'œil nu. Tels sont les faits que je me hâte de porter à ta connaissance au moyen de notre messager ordinaire. Tu peux compter sur leur exactitude comme sur le zèle et le dévouement de ton élève, Fomalho. Cornelio n'eut pas plutôt lu cette lettre que le cœur plein d'une crainte affreuse, il courut à la chambre de sa fille. Hélas! Ses pressentiments n'étaient que trop fondés. Elle avait cessé de vivre. Elle était étendue sur sa couche, sans mouvement et déjà froide. Ses belles paupières, légèrement bleuâtres, couvraient pour toujours ses yeux éteints, et ses longues souffrances n'avaient pas effacé la beauté merveilleuse de ses traits. Cornelio s'assit auprès d'elle. Il resta toute la nuit dans cette posture, la tête cachée dans ses mains. Nous n'essaierons pas de dire quelles pensées vinrent l'assaillir, ni le désespoir où il tomba. Tous ceux qui ont perdu quelques personnes chères savent que c'est après qu'elles ont fermé les yeux que nous nous rappelons plus vivement l'amitié qu'elles ont eue pour nous, les paroles tendres qu'elles nous ont dites. Que c'est alors aussi que nous nous reprochons plus amèrement nos torts envers elles, que nous mesurons l'étendue de notre douleur, le peu de valeur des choses humaines et le profond isolement où nous nous trouvons ici-bas, séparés de ceux qui nous aimaient. La lampe allumée sur la table brûla, brûla et s'éteignit. Pendant 2 jours, aucun signe de vie ne fut donné dans la vieille tour. Au bout de ce temps, la congrégation municipale, ayant besoin de visiter les caveaux de la Specola pour voir si l'on ne pourrait pas en tirer parti en les louant pour y établir une glacière, le délégué du Podestat vint frapper à la porte et ne put parvenir à se faire entendre. Il revint avec des ouvriers qui jetèrent la serrure en dedans. Le vieux gardien, qu'ils appelaient à grands cris, ne leur répondit pas. Après l'avoir cherché vainement dans son laboratoire, ils ouvrirent la chambre de sa fille, où ils le trouvèrent assis dans l'attitude où nous l'avons laissé, la tête cachée dans ses mains. En s'approchant, ils virent qu'il était mort. Sa boîte à compartiments, ouverte près de lui, leur fit songer qu'il s'était empoisonné au moyen de quelqu'une des poudres diaboliques dont il avait connaissance. On l'enterra avec sa fille au milieu de la nuit, dans une terre non consacrée. Des recherches furent ordonnées dans tous les recoins du donjon pour trouver ces trésors que l'on ne put parvenir à découvrir. La ville dut alors se contenter d'ordonner la vente de sa bibliothèque et de son mobilier, dont la plus grande partie passa entre les mains du marquis Fortelli, si connu par son beau cabinet d'antiquité. C'est là que l'auteur de ce récit a vu la boîte mystérieuse de Cornelio, au fond de laquelle il crut apercevoir encore un reste de ces poudres terribles dont le magicien faisait usage dans ses conjurations. Le savant marquis, en la lui montrant avec un intérêt tout particulier, lui dit que, d'après sa forme et le caractère de ses ciselures, il croyait pouvoir la donner avec assez de certitude pour un spicilidium antique. Le marquis possédait aussi la lettre rapportée plus haut par laquelle Cordilio avait été informé de la mort d'Octavio Ariani, et il daigna nous la communiquer avec quelques autres documents au moyen desquels cette histoire a pu être composée. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre congé de nos lecteurs. S'il se trouvait parmi eux quelque Aristarque jaloux qui se permit de blâmer légèrement notre récit, de l'accuser de frivolité ou de romantisme, de fermer les yeux en un mot à sa haute portée psychologique, nous le plaindrions de tout notre cœur, en lui conseillant de s'envelopper la tête dans un bonnet de coton bien moelleux et de s'endormir en paix après avoir souhaité le bonsoir à sa gouvernante.